Eh bien bonsoir et bienvenue dans Café Noir. Café Noir qui reprend après cette petite pause de 15 jours avec des plages pacifiques. On va parler littérature aujourd'hui. Et pour parler littérature, on illustre avec un titre des Kings, Picture Book. Alors là, il n'y a que des images, mais c'est un livre quand même. Et bien voilà, Picture Book, l'image qu'on va utiliser dans le livre cette semaine, ça va être les forêts, et notamment la forêt de Biélorussie, à la frontière de la Pologne, avec ce livre « Traverser les forêts ». C'est signé Caroline Hino, une costa-armoricaine qui accepte de se prêter à l'interview de Café Noir. Voici donc 10 minutes de découverte de littérature avec « Traverser les forêts » de Caroline Hino. Bonne écoute. Café Noir présente Caroline Hino, une écrivaine costa-armoricaine rencontrée le jeudi 22 janvier 2026 à la médiathèque La Clairière de Fougères. Bonne écoute. Café Noir, bonsoir.
Bonsoir.
Donc Caroline Hino, vous êtes écrivain, il y a un livre, Traverser les forêts, dans lequel on dirait que c'est l'aventure de trois personnes en chassé, croisé, un triptyque. Comment on dit d'ailleurs quand il y a des aventures comme ça qui avancent avec trois volets différents?
trois lignes de force ou trois lignes de faille. Mais je sais pas, on peut parler de romans choral, de romans entremêlés, de tissage. J'aime bien l'idée.
Et alors, chaque personnage, justement, a ses contradictions, sa dualité. On rentre dans la psychologie des personnages.
Oui, bah, en fait, ce sont trois femmes et chacune a sa langue, on va dire, plutôt que, enfin, sa langue qui correspond peut-être à sa psychologie ou à sa vie intérieure, en tout cas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail du langage. Donc, chacune de ces femmes a un âge, une nationalité différente, mais aussi une manière de s'exprimer ou d'être écrite, en tout cas, qui est différente, oui.
Alors, il y a une trame commune, quand même, c'est le même monde, hostile. Alors, hostile dans la nature et hostile entre les hommes.
Oui, bah alors l'idée, c'est quand même une sorte de huis clos à ciel ouvert. Alors, ça peut évoquer mon premier roman qui s'appelait Sola, qui était déjà un huis clos sur la banquise. Mais disons qu'il y a une unité de lieu qui est cette forêt, la dernière forêt primaire d'Europe, qui est un lieu qui existe vraiment, la forêt de Białowieża, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Et ce qui m'intéressait, c'était comment, pour des raisons très différentes, ces trois femmes se retrouvent dans cette forêt. Donc chacune avec des lignes existentielles, pas du tout arrivées au même déroulé et arrivées au même niveau, on va dire. Mais la façon dont justement ces lignes vont s'entrecroiser, la façon dont nos vies sont inextricablement liées, qu'on le veuille ou non, en fait. C'est ça qui est intéressant.
Alors on est sur une réalité dure quand même, la forêt biélorusse.
Oui, oui. Alors on est la réalité parce que c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons et peut-être encore plus maintenant. Au moment où moi j'ai commencé à écrire, le déclic ça a été une crise migratoire effectivement instrumentalisée par le régime biélorusse pour affaiblir l'Europe, hein, ce qu'on appelle, enfin ce qui a été appelé une guerre hybride. C'était juste avant d'ailleurs l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Donc ça participait déjà de ce mouvement de déstabilisation de l'Europe. Et en gros, la Biélorussie acheminait des personnes qui demandaient le droit d'asile, des personnes exilées en Europe, et puis en fait les abandonnait à la frontière en leur faisant croire qu'elles auraient un visa, et finalement on les laissait errer et mourir même dans cette forêt. Donc moi, ce qui m'a intéressée, c'était comment un lieu, parce que cette forêt, c'est aussi la dernière forêt primaire d'Europe, et c'est un lieu de biodiversité inouïe, c'est un lieu qui est protégé, il y a une partie de la forêt qui est un parc national, il y a des espèces, enfin il y a une faune et une flore exceptionnel. Par exemple, il y a le dernier bison d'Europe. Et donc, comment un tel lieu, un tel réservoir de biodiversité, un tel sanctuaire du vivant pouvait se transformer en piège géopolitique. Voilà, c'était la réversibilité du lieu qui m'intéressait, en fait, sa multiplicité.
Et avec ces trois femmes, on réinvente un courage moderne aussi.
Oui, alors ça, je sais pas, c'est vous qui le dites, mais en tout cas, je pense que chacune de ces femmes, moi, j'ai écrit chacune de ces femmes dans un parcours, pour moi, d'émancipation. Chacune doit, alors peut-être que c'est ça le courage, c'est s'émanciper, c'est se libérer de ce qui nous entrave, et chacune à son niveau. Donc il y en a une, l'entrave, elle est très concrète, elle est très triviale, et très violente et très dure, c'est une jeune personne qu'on qualifie de migrante aujourd'hui et qui donc doit survivre, elle, dans cette forêt. Donc l'émancipation, elle est immédiate. La deuxième, c'est une émancipation un peu plus complexe sur le long terme. C'est une femme polonaise qui aurait voulu partir, mais elle n'est jamais partie. Elle incarne pour moi tous ceux qui auraient voulu quitter, on va dire, le noyau familial, la structure un peu primitive et qui n'ont pas réussi. Et ça, c'est aussi intéressant de quel est l'élan, à un moment, le désir, l'élan vital qui fait qu'on peut quitter, partir, trouver peut-être sa voie. Et puis la troisième femme, elle est aussi dans un travail d'émancipation, peut-être plus intellectuel, parce que c'est une femme engagée, elle était journaliste en Biélorussie. Alors elle fait écho aux journalistes biélorusses qui, dans la vraie vie, dans la réalité, sont persécutés par le régime biélorusse et vivent pour la plupart en exil. Donc moi, j'ai imaginé ce personnage qui incarne ça, un esprit de résistance, et qui, en fait, cherche dans l'écriture, et notamment peut-être dans l'écriture poétique, une manière de réinventer sa résistance, de supporter cette violence du monde, en fait, la dureté du monde.
Et on retrouve d'ailleurs sur ce personnage du journaliste une écriture dans le livre, une écriture différente. On passe de l'écriture roman à l'écriture de presse.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, elle est entre deux moments de sa vie parce qu'elle a choisi de s'exiler dans cette... Enfin, pour des raisons romanesques, je l'ai placée dans une espèce de cabane forestière où elle cherche un peu à se réinventer. Elle fait une sorte de pause, de césure, voilà, dans sa vie parce qu'elle a beaucoup lutté et elle est très fatiguée et elle se cogne sans cesse contre l'absurdité du monde. Et je pense que elle est tiraillée entre un langage du réel, qui est le langage du journalisme, avec une... la nécessité d'être fidèle aux faits, à la vérité, dans un monde qui nous nourrit sans cesse de fake news et de post-vérité, justement. Donc elle a cette exigence-là. Et puis à la fois, elle est taraudée par un désir de création littéraire et elle se questionne, et c'était moi ma manière de peut-être d'injecter mes propres questionnements dans le livre, elle injecte ce questionnement de pourquoi écrire encore aujourd'hui, pourquoi écrire de la fiction, pourquoi écrire de la poésie, que peut encore le langage en fait dans un monde qui est enclin plutôt à la violence et à la guerre.
Merci beaucoup Caroline.
Mais merci à vous.
Thank you.
Les Cure à l'instant dans Café Noir avec Robert Smith au chant pour ce titre A Forest. Cette forêt était censée illustrer l'entretien juste avant avec Caroline Hino. Ça s'écrit comme le cycliste et le titre de l'ouvrage s'appelle Traverser les forêts. On reste dans les entretiens, il est midi et quart et souvent le jeudi à midi et quart, on écoute une découverte musicale. Cette semaine, c'est Yeko, Y-E-K-O, et c'est un groupe de musique africaine assez surprenant. Je vous laisse découvrir ces artistes dans Café Noir, toujours sur Syllabe. Très bonne écoute. Café Noir présente Yeko, Y-E-K-O, un groupe de musique africaine rencontré le samedi 7 février 2026 au Coquelicot de Fougères. Bonne écoute. Café Noir, bonsoir.
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 Ikakene.
Toraste.
Toraste, Yeradu.
Alors voilà, en Bambara, il y a Yeko qui est un nom de groupe et qui est aussi un mot qui est une façon de voir. Alors comment on confronte les façons de voir entre musiciens ?
Eh bien, en venant avec des choses qu'on a préparées. Par exemple, en ce qui me concerne, moi je viens avec des petits playbacks et je fais écouter aux musiciens ou aux chanteurs et chanteuses. Donc là maintenant, c'est avec Socha. Et du coup, elle me dit ce qui lui plaît. Et puis, selon son retour, j'arrange un petit peu la musique. C'est un échange, en fait, ça. Mais on part d'une petite base que quelqu'un a amenée. Et peut-être qu'on fera l'inverse un jour, d'ailleurs, Socha.
Oui,
c'est toi qui amèneras.
Avec plaisir.
Et vous, Socha, votre façon de voir, c'est votre façon de chanter.
Exactement. De transmettre mes émotions en fonction des notes de Johan.
Alors sur votre musique, c'est vrai qu'on est tout de suite dans la musique africaine avec de la polyrythmie, c'est ça, d'autres notions qu'on a l'habitude d'entendre ici en Europe.
Mais en fait, il y a un pont qui est vraiment très très naturel entre... J'ai fait pas mal de fest-noz avant, par exemple. C'est un peu ça qui m'a amené au funk, au jazz et tout. Et directement, le pont avec la musique africaine est juste évident, quoi. Et en fait, en revenant de mon premier voyage, je faisais encore du fest-noz et je pouvais très facilement jouer les accompagnements mandingues sur des mélodies à danser bretonnes. Et ça allait tout à fait avec le rythme de la danse. Et c'était vraiment naturel et fluide, quoi.
Alors, mandingue, on parle d'une culture africaine. Vous arrivez à bien transmettre toute cette culture sur scène ?
Oui, et ce qui est bien avec Johanna, quand je l'écoute, des fois, je voyage du nord, du sud et au centre. Et j'arrive à me retrouver vraiment avec Johanna, différentes cultures de mandingue et Westaf.
Alors, il y a aussi un petit peu de visuel avec des maquillages, des masques.
Oui, bon, ça c'est sans mes petits délires, mais surtout ça plaît aux gens et j'essaye de surtout me diriger vers les pulls, comme je suis un peu d'origine de ça. Et bon, les pulls ils font souvent des petites taches noires et je me suis dit, je change un peu, je mets du blanc et voilà.
Alors, combien de musiciens sont dans le projet pour la formule musicale ?
On est 5 sur scène, donc il y a Socha. Drissa Dembélé qui lui est fils de griot d'une longue lignée, hein, c'est deux parents même. Donc lui il fait tous les instruments traditionnels, c'est un peu la couleur, voilà, la couleur organique qu'il apporte dans le projet. Et donc le balafon, le kamelengoni, donc le kamelengoni c'est la kora avec un peu moins de cordes en pentatonique on va dire. Et sinon il fait des percussions, tama c'est le tambour parlant là qui module un peu comme les tablas d'Inde et le djembé. Sinon il y a basse, batterie et clavier.
Alors vous, Johan, il me semble que vous avez découvert Bamako en 2012.
Exactement, ouais.
Et là, une claque.
Une énorme claque. Un truc de fou. Coup de foudre. J'ai trop, trop aimé la musique partout. Et surtout que c'était avant les problèmes dont on parle beaucoup plus maintenant. C'était vraiment un mois avant le premier coup d'État qu'il y avait
c'était
eu. Et du coup, il y avait encore des concerts partout, partout, partout. Et c'était génial tous les soirs. En journée, je prenais des cours de musique. Et le soir, je les voyais sur scène et tout. C'était incroyable.
Alors c'était quoi, la liberté des opportunités, enfin, tout était possible pour faire de la musique sur place?
C'est surtout la diversité et la joie, et cette musique-là, elle est incroyable. Enfin, moi, ça m'a pris complètement, quoi. Alors, j'étais bien préparé avec la musique bretonne, avec le funk et tout ça, mais là, j'ai vraiment vu l'origine un peu, pas de la musique bretonne, mais de tout ce qui est groove afro-américain. Et en fait, comme disait Socha, le Mali est incroyablement riche en diversité musicale, parce qu'il y a énormément d'ethnies différentes, et donc autant de styles musicaux. Et donc, y a la musique bobo, la musique des chasseurs du Wassoulou, les musiques du Nord. Il y a énormément de styles différents et tout ceci incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a autant de célébrités qui viennent du Mali, en fait. Je pense que n'importe qui peut en citer 2 ou 3 comme ça en 2 secondes. N'a pas forcément autant dans les autres pays, en fait, j'ai l'impression.
Et alors, Socha, le Mali, est-ce que vous voulez lui adresser un message ?
Mali, Amben Ali. On arrive. Amben Ali. Amben Ali.
Vous êtes guitariste, vous, Johan. Vous semblez quand même réinventer cette guitare. On a l'habitude de jeux assez habituels, assez usuels. Et en fait, quand vous partez sur les univers musicaux avec Yeko, il semble que vous réinventez un peu l'instrument.
En tout cas, je pense que j'ai trouvé ma façon de jouer. On court beaucoup après ça. Quand on apprend un instrument, on voit des maîtres qui sont hyper forts. Et des fois, c'est dur de se dire qu'on n'y arrivera jamais, tout ça. Et puis, en fait, très naturellement, cette musique-là m'a embrassé. Je l'ai embrassé aussi. Et c'est devenu un style de jeu. Alors, je suis absolument pas spécialiste de la guitare malienne. Les Maliens savent le faire extrêmement bien. Mais ça m'a tellement influencé que maintenant, un peu comme la musique bretonne, ces deux musiques-là font partie de mon langage sans que je m'en rende compte, en fait.
Et pour le chant, quand vous chantez, est-ce que le public a un impact, une modification sur votre chant ?
Le regard du public, surtout, qui me passe, qui me donne une énorme énergie, soit ça va ou... Et ça n'a jamais tombé, au fait. À chaque fois, quand je regarde, ça m'emporte et les portes s'ouvrent et ça sort sans que je me rende compte, au fait.
Et toujours, on se relève.
Exactement.
Bon, merci, Yeko.
Merci à toi. À bientôt. Merci.
Et bien voilà, la musique du Mali aux accents rock, c'était Yeko dans Café Noir pour cet entretien. Et tant qu'on est dans le Mali, on va parler de Damon Albarn, qui est un autre musicien qui a fait le Mali album. Et Damon Albarn a aussi fait partie de Gorillaz, qu'on découvrira peut-être, parce que Gorillaz sort un album et il existe quand même depuis une bonne vingtaine d'années. Gorillaz, ben voilà, pour enflammer les pistes de danse le jeudi pendant midi, on va s'écouter 19-2000. Alors, je crois que ça dit 19-2000, je sais pas vraiment, enfin en tout cas c'est Gorillaz, on va danser pendant 3 minutes avant la fin.
The world is spinning too fast, I'm fine that Nike shoes. To keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got riddles in a happy mood. Keep my groove on. Watching a fake betrayal, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep from our groove on.
Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine.
Yeah, do the bump. Yeah, do the bump. Yeah, do the bump.
Et bien voilà, Café Noir, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine pour une plage pacifique. Très bonne semaine à vous sur Syllabe.